France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Les figures de la marginalité, qu'en dit la philosophie quand elle se retrouve ainsi poussée vers les marges? C'est notre série de cette semaine et ce matin, nous nous penchons sur la figure du paria élaborée par Arendt. Ce n'est pas Hannah Arendt qui a inventé l'usage du mot paria pour désigner certaines formes de marginalité tenace dans la société moderne européenne. Ce mot, référence apparente aux indésirables de la société de caste indienne, référence très approximative, nous expliquerons cela, ce mot donc apparaît au XVIIIe siècle en Europe pour évoquer les personnages qui sont rivés à une existence fragile, déconsidérés en profondeur, malgré des marques ostensibles d'émancipation et de succès. Dans les années 1830, la femme de lettres, militante socialiste et féministe, Flora Tristan, utilise ce mot à propos des femmes. Le mot est repris en 1901 à propos des juifs dans la société européenne par l'écrivain anarchiste Bernard Lazare. Lazare qui avait été le premier, dans un ouvrage publié en Belgique en 1896, à enquêter sérieusement sur l'affaire Dreyfus et a démonté en détail cette erreur judiciaire pleine d'intentions souterraines. Le père de la sociologie allemande, Max Weber, a lui-même utilisé l'expression de peuple paria dans sa grosse étude des années 1917-18 sur le judaïsme antique. Mais Arendt a fait de la notion de paria quelque chose de particulièrement riche pour penser tout ce qui, dans les sociétés modernes d'avant la Seconde Guerre mondiale, a facilité l'entreprise nazie de destruction des Juifs. Analysant les facettes subtiles de cette condition de paria, toutes ses résonances dans la culture, dans la littérature, elle a élaboré un véritable concept. Et ce concept arendtien de paria est très utile d'ailleurs aujourd'hui pour réfléchir à d'autres figures minoritaires, à d'autres ambiguïtés sociales où réussir ne suffit pas à mettre fin aux stéréotypes et à une fragilisation profonde. Bonjour Martine Lebovici.
Bonjour Géraldine.
Alors Martine Lebovici, vous êtes la plus grande connaisseuse française aujourd'hui de l'œuvre de Hannah Arendt en France. Donc vous avez notamment co-dirigé avec Aurore Mregen le numéro des Cahiers de Lerne, consacré à Arendt en 2021. Je précise que vous avez aussi co-dirigé avec Eleni Varikas un numéro de la revue Tumulte en 2003 qui a véritablement fait date sur cette notion, le paria, une figure de la modernité, Eleni Varikas, à laquelle nous rendons aussi hommage ce matin, notamment pour son livre « Les rebuts du monde, figure du paria » que vous pouvez lire chez Stock. Je signale également, ça me paraît important, on aura peut-être le temps d'en parler, Martine Lebovici, que vous avez passé un long moment de votre vie de chercheuse sur des auteurs en porte-à-faux par rapport à leur milieu social d'origine. Carl Philip Morris, Richard Wright, Assia Djebar, analysés dans votre livre autobiographie de Transfuge aux éditions du Manuscrit, et ça n'est pas sans rapport avec la question du paria. Bonjour Marina Touillet.
Bonjour.
Touillet, pardon, dit comme ça. Hein.
Oui, Touillet, c'est très bien.
Dans le cadre de recherches sur les années 1930 et 40 en France, en Allemagne aussi, vous avez publié l'an dernier aux éditions L'Échappée un livre qui a eu un succès extraordinaire, Hannah Arendt et la tribu en France, 1933-1941. Livre préfacé par Martine Lebovici, justement. Vous y montrez comment Arendt, exilée en France avant de partir aux États-Unis, expérimentait elle-même avec ses amis réfugiés allemands, la tribu, c'est son mot, une condition de paria tandis qu'elle travaillait cette notion. Et votre livre se lit comme un roman.
Merci.
Bravo. Beaucoup. Pour commencer notre conversation sur le paria arendtien, voici ce que dit le chercheur spécialiste de l'Inde Jean-Luc Racine sur le mot lui-même.
Paria, le mot lui-même, donc, est un mot tamoul, c'est paria. Les intouchables, c'est cette partie de la population indienne. Chacun sait plus ou moins, au moins vaguement, qu'elle est organisée selon un principe de hiérarchie qu'on appelle la société de caste. Les castes sont très nombreuses, organisées, hiérarchisées donc en quatre grands ordres, si on peut employer un mot occidental. Et à l'écart de ces quatre ordres, en est d'une certaine façon un cinquième, c'est celui des intouchables qui sont donc désignés comme tels. Le mot est occidental, hein, parce que en principe, qui les touche se pollue, puisque l'une des définitions des intouchables est qu'ils sont présumés être impurs. Entre autres, pour des raisons de naissance, ils sont nés dans cet ordre un peu à part en raison de leur vie passée, puisque l'hindou croit en la réincarnation selon les mérites, et impur de surcroît, parce que dans le système villageois traditionnel, c'est au sein des intouchables que l'on attribue un certain nombre de tâches supposées polluantes, comme le travail sur les cadavres d'animaux, les incinérations, les funérailles.
Si je comprends bien, Martine Libovici, pour les spécialistes de l'Inde, c'est un mot paria qu'on n'emploie plus vraiment, on en a eu d'autres, même intouchable, je crois qu'on ne l'emploie plus directement. On dit des mots que j'ignore comme Harijan ou Dalit. Enfin, on ne parle plus de paria alors que souvent nous croyons que c'est comme cela qu'on désigne la plus basse des castes indiennes.
Oui, alors en fait, moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est vraiment grâce aux travaux d'Eleni Varikas, en particulier le livre que vous avez cité, Les Rebuts du Monde. Mais c'est-à-dire, ce qu'elle montre dans son livre, c'est qu'en réalité, dans dans l'ordre des castes indiens, ceux qui sont intouchables, c'est absolument pas c'est pas le mot paria qui est employé, c'est le mot dalit.
Voilà.
Et ce qu'elle explique, c'est que ce mot paria, dont effectivement, on sait pas très bien quelle en est son origine, mais il a commencé à apparaître dans la littérature politique au moment de la Révolution française. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il y a un paradoxe, parce que il commence à être employé. Alors, on peut rappeler les différentes phases de son emploi au XIXe siècle, mais au moment où il est employé, c'est précisément un moment où commencent à se faire jour les idées d'égalité universelle. Oui. Et le paradoxe de cet emploi du mot paria, c'est que c'est précisément à ce moment-là que l'on désigne des groupes qui sont justement mis à l'écart, alors même que on proclame l'égalité universelle. Et cette mise à l'écart se produit soit par un certain nombre de préjugés qui ne sont pas forcément institutionnalisés, donc c'est-à-dire que c'est un vécu de personnes qui sont, comme on dit aujourd'hui, stigmatisées avec des jugements négatifs, où on trouve aussi l'impureté, etc. Mais aussi des sociétés dans lesquelles, malgré l'égalité proclamée, il y a toujours des lois qui dénient à certains une égalité que pourtant les principes devaient utiliser. Donc c'est ça qu'elle montre dans tous ses travaux. C'est qu'il y a... Alors, et que le paria est aussi un vécu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans leur corps la discrimination, et que ça a à la fois une connotation donc de discrimination alors même qu'on proclame l'égalité, mais c'est aussi quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que ça relève aussi c'est exprimé aussi comme un vécu. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi toute une connotation romantique avec cette notion de paria.
Marina Touyez, comment le paria est-il venu à Arendt, si j'ose dire? C'est-à-dire, Arendt sera réfugié en France dans les années 1930 avant de gagner les États-Unis. Auparavant, elle s'est intéressée à une femme allemande juive, semble-t-il très assimilée, comme on disait, Raël Varnagen. Je veux bien que vous nous en disiez tout de suite un mot. Et comment se fait-il qu'Arendt choisisse ce mot de paria soudain en France? Connaissait-elle son histoire au XIXe siècle? Comment ce mot s'impose-t-il à elle?
Par un vécu, d'une part, ce qui va être intéressant sur ce que vont vivre Hannah Arendt, ses amis et en réalité la plupart des réfugiés allemands en France, c'est qu'ils vont être de multiples fois mis au banc de la société pour de multiples raisons. Ça, c'est très prégnant dans ce qu'elle explique, c'est-à-dire que ils vont d'abord être mis au banc en tant que juifs, ensuite en tant que boches, arrivé en Allemagne, et pour d'abord... arrivé en France, d'abord dans un contexte de crise économique, ensuite dans un contexte de guerre. Donc, Elle va employer ensuite, elle parlera très peu de la France et de son vécu en France, parce que quand elle va apprendre la nouvelle de l'existence d'Auschwitz, ça va reléguer beaucoup ses propres souffrances et ce qu'elle a vécu en France. Elle le raconte en 64 à Gauss, mais quand elle en, le peu de choses qu'elle a écrites sur ce qu'elle-même a vécu en France, c'est ces mots-là, ces mots d'indésirable, et en particulier ce texte dont on entendra tout à l'heure un extrait, « Nous autres réfugiés », avec une amertume très forte sur cette mise au ban qu'ils ont vécu. Alors, vous parliez de Raël Varnagen, c'est effectivement...
Qui
en commençant. Alors, c'est une salonnière à l'époque romantique, née dans une famille juive assimilée, c'est-à-dire c'était ces juifs complètement acquis à la culture allemande, amoureux de l'Allemagne et de la nation allemande, qui étaient plus forcément très empreints de religion et d'identité juive. Et en fait, Anna Arendt va commencer à écrire son habilitation dès les années 30 en Allemagne sur Raël Varnagen. Et en travaillant sur Raël Varnagen, elle va elle-même évoluer politiquement, Anna Arendt, vers des convictions sionistes. Elle ne va jamais adhérer à l'Union sioniste, mais elle va évoluer vers ce constat que l'assimilation, en réalité, est un jeu de dupes en France et en Allemagne. Donc l'assimilation qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et qui a valu aux Juifs en France et en Allemagne d'être émancipés après des siècles d'anti-judaïsme, etc. Et donc ça explique l'amour des Juifs allemands et des Juifs français pour ces sociétés allemandes et françaises. Mais en réalité, en suivant le destin de Raël Varnagen, qui va être dans une volonté de s'assimiler, de s'intégrer, et finalement qui va rencontrer de grandes souffrances parce que elle va se rendre compte que c'est renier son identité juive, et elle va Anna Arendt va écrire sa biographie à Raël Varnagen, et en étudiant cette femme, sa correspondance, ses lettres, etc., une femme qui était brillante,
et qui vivait, il faut quand même donner la date, parce que quand on dit va découvrir, on a l'impression que c'est à côté d'elle. Il s'agit d'une femme née en 1771, morte en 1833, dans un moment de l'Allemagne où, oui, on pouvait croire que certains juifs qui avaient des lettres et un certain confort matériel et des relations étaient parfaitement intégrés.
Oui, et un statut social. C'est-à-dire que, comme disait Martine, le paria, c'est quelqu'un, et Anna Arendt le dira très bien en 1943, c'est quelqu'un d'abord qui est mis au banc de la société. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est subjectif au sens où lui se sent mis au banc. Et on pourrait croire que les juifs assimilés ont réussi à atteindre un statut social en France et en Allemagne. Mais Anna Arendt les appellera, à la suite de Bernard Lazare, des parvenus, ceux qui s'accrochent à ce statut au détriment de leur identité juive, qui pour Anna Arendt serait, est intrinsèquement une identité de paria.
On va revenir sur cette dialectique, me semble-t-il, entre le parvenu et le paria chez Arendt, mais puisqu'on a évoqué les sources de l'emploi du mot en Europe de paria, voici deux courts extraits, un de Floria Tristan, dont j'ai parlé dès les premières minutes de cette émission, et un autre texte de Bernard Lazare.
Ma mère m'obligea d'épouser un homme que je ne pouvais ni aimer, ni estimer. À cette union, je dois tous les maux. J'avais 20 ans lorsque je me séparais de cet homme. Il y en avait 6, en 1833, que durait cette séparation. J'appris, pendant ces 6 années d'isolement, tout ce qu'est condamné à souffrir la femme séparée de son mari au milieu d'une société qui, par la plus absurde des contradictions, a conservé de vieux préjugés contre les femmes placées dans cette position, après avoir aboli le divorce et rendu presque impossible la séparation de corps. L'incompatibilité et 1000 autres motifs graves que la loi n'admet pas rendent nécessaire la séparation des époux. Mais la perversité, ne supposant pas à la femme des motifs qu'elle puisse avouer, la poursuit de ses infâmes calomnies. Excepté un petit nombre d'amis, personne ne l'en croit sur son dire. Et mise en dehors de tout par la malveillance, elle n'est plus, dans cette société qui se vante de sa civilisation, qu'une malheureuse paria, à laquelle on croit faire grâce lorsqu'on ne lui fait pas d'injure.
Le juif est un paria. Émancipé ou non, il servira toujours de bouc émissaire aux nations chrétiennes. Aussi, c'est en paria qu'il doit se défendre, par devoir envers lui-même, car toute créature humaine doit savoir résister à l'oppression et sauvegarder son droit à l'expansion totale, sa liberté d'être et d'être elle-même. C'est pour cela qu'il ne faut pas, comme le font les juifs émancipés, nous considérer uniquement sous l'aspect de l'antisémitisme. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher ce que les peuples au milieu desquels nous sommes peuvent attendre de nous. Il faut chercher ce que nous pourrions tirer de nous-mêmes. Et pour cela, il faut non pas christianiser le judaïsme, mais au contraire judaïser le juif, lui apprendre à vivre pour lui et à être lui.
Flora Tristan d'abord, Bernard Lazare ensuite. Martine Lebovici, qu'est-ce que Arendt a retenu de tout cela ? D'abord, pardon, il y a une curiosité extraordinaire d'Arendt. Hein, je veux dire, c'est une femme qui a fait de la philo avec Heidegger, une thèse sur Saint-Augustin. On dit tout le temps, voilà, elle était dans l'orbite de tous ces philosophes très abstraits, etc. Enfin, c'est pas Heidegger qui va se pencher sur Bernard Lazare, Flora Tristan et tout le reste. Je trouve ça fait du bien aussi de le rappeler. Oui. Cette extraordinaire aussi émancipation d'une femme philosophe par rapport à ce qui est convenu en philosophie. Mais maintenant, dites-moi conceptuellement ce qu'elle retient de toutes ces lectures.
Alors, je ne crois pas du tout qu'elle connaissait Flora Tristan, par exemple. Je ne crois pas du tout qu'elle était au fait de l'emploi du mot paria dans la littérature française au XIXe siècle. En revanche, peut-être elle avait entendu parler de l'opéra de Michael Berg du début du XIXe siècle en Allemagne, qui devait s'appeler Der Paria ou quelque chose
oui,
comme ça.
Der Paria, 1823. Voilà. C'était le fils d'un banquier juif, et ça, et déjà, il voyait.
Et effectivement, l'opéra est une le paria est une métaphore de la condition juive. En revanche, celui qui est extrêmement important pour elle, alors évidemment, elle connaissait Max Weber, hein, ce qui est extrêmement important pour elle dans son élaboration de la notion de paria, dans le cadre aussi de son investissement à l'époque à côté des sionistes, c'est Bernard Lazare. Ça, c'est vraiment, je crois, celui qui lui fait élaborer son... ce ne suis pas sûre que ce soit un concept exactement, même le
paria. Une figure, peut-on dire.
C'est une figure, plutôt. Oui. Hein, et c'est vraiment Bernard Lazare, je crois, dont elle est la plus proche pour son analyse de la condition juive dans le contexte de l'émancipation.
Alors Bernard Lazare, il était très engagé très tôt et très... Il a donné beaucoup d'éléments factuels pour démonter l'affaire Dreyfus. Arendt pensait, comme beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qu'en arrivant en France, elle arrivait sur la terre où on avait déjoué cette histoire-là, où finalement le mensonge autour de Dreyfus était tombé. Elle pensait que c'était un peuple extraordinaire qui avait réussi à dépasser les choses autour de l'antisémitisme de la fin du 19e. Est-ce qu'il y avait de cela dans sa terrible déception à son arrivée en France, Marina Touyez?
Oui, elle s'attendait pas, ni les autres réfugiés allemands, qui, pour la grande majorité d'entre eux, là on parle des réfugiés de 1933, se dirigent vers la France et vers Paris. Ils s'attendaient pas à être, on va dire, lâchés par les Israélites, c'est-à-dire les Juifs français assimilés, au sens où c'est eux qui gèrent le principal organe de secours. Et en réalité, ils vont aligner leur secours aux réfugiés avec la politique du gouvernement français, qui est de ne faire de la France, en fait, qu'une gare de triage. C'est les termes qu'on peut retrouver dans les propos du comité national, donc ce comité de secours, et les directives du gouvernement. Donc l'idée, dans une crise économique, mais bon, qui ne justifie pas forcément ces décisions, parce que là, il s'agit en 33-34 de quelques milliers seulement de réfugiés allemands. Mais pour donner des gages à la population française qui a peur de cette concurrence, de main-d'œuvre, etc., ils vont plutôt vouloir rediriger, on va dire, les Juifs sur la Palestine, aux États-Unis, et puis en réexpulser quand même beaucoup vers l'Allemagne, quelques centaines dès 1933. et Günther Anders, Günther Stern, qui est marié avec Anna Arendt à cette époque-là. Donc, ils vont vivre ensemble cette dure déception, la faim, la difficulté de trouver du travail, la vie dans un garni, dans une pièce de 10 mètres carrés. Günther Anders, plus tard, il aura des mots très durs pour parler de cet exil en France. Et lui, qui sera parti aux États-Unis en 36, dira que l'exil a été particulièrement rude en France. Et ça s'explique par l'accueil des Israélites qui ont la possibilité de secourir les réfugiés allemands, mais en réalité, qui ont tellement peur d'une explosion de l'antisémitisme, qu'ils vont s'aligner, et qui sont proches aussi de fait, hein, c'est les mêmes cercles avec les gens du gouvernement, il y a beaucoup de notables, etc. Il y a un peu de racisme, hein, pour certains, envers les Juifs de l'Est. On est dans un contexte où les Juifs de l'Est immigrés à la fin du 19e, début 20e, sont devenus majoritaires en réalité en France. Mais c'est les Israélites qui sont les représentants auprès du gouvernement et qui ont les moyens. Et eux vont se comporter comme des parvenus, c'est-à-dire au sens où ils vont privilégier leur statut social, justement, français. Ils vont justement se concentrer sur la peur de l'antisémitisme au détriment d'une identité juive et d'une solidarité juive. Ils ne vont pas se comporter en paria conscient, qui reconnaissent qu'ils intrinsèquement, en réalité, ils sont juifs et paria, ils le resteront. Et voilà, cette attitude, c'est aussi l'attitude plus tard qui va faire que les juifs français vont se sentir protégés au moment des premières lois anti-juives.
Arendt, donc, est mariée à Günther Stern, qui changera ensuite son nom, qui s'appellera Günther Anders, philosophe, désormais bien mieux connu qu'il y a quelques années. Mais à Paris, elle va se séparer de lui, rencontrer un ancien communiste dissident, disons, allemand, qui s'appelle Heinrich Blücher, qui n'est pas juif. Ma question est la suivante. Pour Arendt, d'après vous, Martine Lebovici, est-ce que la notion de paria, c'est les juifs ou c'est plus large? C'est les réfugiés? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu les réfugiés?
Alors, je dirais qu'elle réfléchit à la notion de paria à partir de la condition juive. Ça, c'est incontestable. Et c'est vrai, c'est ce qu'elle trouve aussi chez Bernard Lazare. Mais alors, il faudrait peut-être différencier plusieurs applications de la notion de paria chez Arendt, hein, parce que c'est assez compliqué et c'est justement c'est pas un concept qu'elle applique d'une manière, disons systématique. C'est-à-dire que il y a quatre et même cinq points d'application de la notion de paria chez Arendt. Il y a d'abord une notion qui est inspirée de la notion de peuple paria, c'est-à-dire c'est la condition des Juifs avant l'émancipation, de citoyens de seconde zone, de non-citoyens, etc., avec éventuellement refermé sur soi-même, en but à l'anti-judaïsme, etc. La deuxième application, et d'une certaine manière, cette situation est encore celle des Juifs de l'Est en Russie, et en Pologne, disons pendant tout le 19e siècle. Bon. La deuxième application, c'est une notion qui est une notion de paria sociaux, qui désigne la condition sociale des Juifs dans les pays où il y a eu l'émancipation. C'est-à-dire ils sont formellement, pas seulement formellement, mais ils ont des droits politiques, mais ils continuent, comme elle dit, d'être socialement dans le vide. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont affectés de préjugés antisémites. Ils ne s'intègrent pas véritablement dans la bourgeoisie, dans la structuration sociale de la société du 19e siècle. Et donc, c'est une situation de paria sociaux. Et puis ensuite, il y a une figure de paria qui est une figure littéraire et qui provient de poètes comme Heine, de romanciers comme Kafka, de même de Charlie Chaplin, enfin ça c'est les juifs, le juif comme paria, et qui est une création artistique qui où l'auteur au fond dénonce les illusions de l'émancipation, cherche à revenir à son propre peuple, mais il ne peut pas le faire dans la langue du peuple, par exemple dans le yiddish pour ce qui est des juifs allemands, et donc il invente une figure qui est en même temps, en allemand, pour Heine, il insère des mots juifs, des mots de yiddish dans l'allemand, et il y a une espèce de figure ironique dedans-dehors. C'est surtout ça, je crois, la position de Paria. Dedans-dehors, qui permet au Paria de sortir de la cosmis par l'art.
La cosmis, le fait qu'il ne se sente pas dans le monde.
Parce que voilà, la condition de Paria, c'est aussi le fait d'être mis à l'écart du monde commun et parfois de s'en satisfaire d'une certaine façon.
Là, c'est trois niveaux.
Et puis, il y a le Paria conscient. Le paria conscient qui est celui de Bernard Lazare, c'est-à-dire celui qui se rebelle.
Oui.
Les trois autres sont en décalage, mais ils ne sont pas forcément une figure de rébellion, hein, que ce soit Kafka, etc. Et la figure de Bernard Lazare n'est pas uniquement une figure littéraire, mais c'est sa figure, enfin, c'est son expérience politique dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Et je dirais qu'il y a une cinquième catégorie qui est en fait celle que Marina décrit. Et qui, effectivement, parce que en lisant le livre de Marina, je me suis dit que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de. Enfin, bon, elle va en parler mieux. Il y a cette rencontre entre des gens qui sont là pour des raisons politiques, hein, c'est-à-dire qui sont des opposants politiques, et d'autre part des juifs, et ça elle va le comprendre assez rapidement, pour qui c'est pas exactement uniquement parce qu'ils sont des opposants politiques qui sont là, mais parce qu'il y a une politique nazie par rapport aux juifs. Mais en même temps ils se rencontrent dans cette période, et effectivement ils sont des parias au sens où ils sont l'objet de discrimination, mais il y a chez eux quelque chose que n'ont pas les parias habituel, c'est qu'ils développent des liens d'amitié et qu'ils sont politisés. Parce que justement, peut-être on va en reparler, la catégorie de paria n'est pas uniquement une catégorie positive, hein, parce qu'il y a une certaine façon, effectivement, de vouloir rester entre soi, de se méfier du monde et de pas s'intéresser au monde. Mais les parias de Marina, ils n'arrêtent pas de discuter le politique, hein, et ils établissent des liens d'amitié tout autant et de solidarité plutôt que des liens de fraternité.
Alors on va parler dans un instant de ce groupe autour d'Arène, de sa tribu, qui était-il, que ressentait-il dans les années 30 en France. Mais bon, à tout seigneur tout honneur, ou à toute princesse tout honneur, voici deux choses. Le grand texte d'Arène, Nous autres réfugiés, que vous avez toutes les deux cité déjà, qui est un texte de 1943, qu'on peut lire désormais dans la tradition cachée, Le juif comme paria, ouvrage chez Payot. On va entendre un texte d'Arène. Et puis, cette magnifique interview qu'elle a donnée à Günter Gauss en 1964, un journaliste allemand à la télévision allemande, où vous allez entendre la voix d'Arène.
Nous vivons actuellement dans un monde où les êtres humains en tant que tels ont cessé d'exister depuis longtemps déjà. Puisque la société a découvert que la discrimination était la grande arme sociale au moyen de laquelle on peut tuer les hommes sans effusion de sang. Puisque les passeports ou les certificats de naissance et même parfois les déclarations d'impôts ne sont plus des documents officiels, mais des critères de distinction sociale. Il est vrai que la plus grande partie d'entre nous, réfugiés, dépendons entièrement de critères sociaux. Nous perdons confiance en nous si la société ne nous approuve pas. Nous sommes et avons toujours été prêts à payer n'importe quel prix pour être acceptés de la société. Mais il faut également reconnaître que ceux d'entre nous, peu nombreux, qui ont essayé de s'en sortir sans toutes ces combines et astuces d'adaptation et d'assimilation, ont payé un prix beaucoup plus élevé qu'ils ne pouvaient se le permettre. Ils ont compromis les quelques chances qu'on accorde même au hors-la-loi dans un monde bouleversé. Ces quelques individus peu nombreux, on pourrait les appeler, selon Bernard Lazare, des parias conscients. L'histoire juive moderne, ayant commencé avec les juifs de cour et se poursuivant avec les millionnaires juifs et les philanthropes, est encline à oublier cette autre tendance de la tradition juive, illustrée par Heine, Rahel Varnagen, Sholom Alechem, Bernard Lazare, Franz Kafka ou même Charlie Chaplin. C'est la tradition d'une minorité de juifs qui n'ont pas voulu devenir des parvenus, qui ont préféré le statut de paria conscient.
Man denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden.
Aujourd'hui, on pense souvent que le choc qu'ont vécu les Juifs allemands en 1933 a été provoqué par la prise de pouvoir de Hitler.
Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft.
Mais en ce qui me concerne et les gens de ma génération, je peux dire que c'est un curieux malentendu. C'était naturellement très grave. Mais c'était politique, ce n'était pas personnel. Que les nazis étaient nos ennemis, mon Dieu, nous n'avions pas besoin de la prise de pouvoir de Hitler pour le savoir. C'était depuis au moins 4 ans totalement évident à toute personne qui n'était pas complètement idiote. Qu'une grosse partie du peuple allemand les soutenait, ça aussi nous le savions. En 1933, ce n'est donc pas cela qui a été une surprise de l'ordre du choc. Vous savez ce qu'a été la Gleichschaltung ? Cela voulait dire que les amis se sont mis au pas. Le problème personnel n'était pas du tout ce que faisaient nos ennemis. C'était ce que faisaient nos amis. À l'époque, cette vague de mise au pas, qui a été assez volontaire, en tout cas qui ne s'est pas produite à ce moment-là, sous la pression de la terreur, cela s'est traduit pour nous, avant toute chose, par un abandon soudain. C'était comme si un vide s'était formé autour de nous. Et moi, je vivais dans un milieu d'intellectuels, mais je connaissais aussi d'autres personnes. Et j'ai pu constater que cette mise au pas a été pour ainsi dire la règle chez les intellectuels et pas dans les autres milieux. Et cela, je ne l'ai jamais oublié.
Mise en ordre ou mise au pas opérée par les nazis, tout cela sera meurtrier pour les juifs allemands. Et Arendt nous explique là, Marina Touyès, que c'était l'abandon des amis qui était le pire, hein, peut-être le moins prévu. Si on avait des illusions sur l'intégration ou l'assimilation des Juifs à la société allemande, est-ce la même découverte qu'Arendt va faire en France ?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important, je pense. Cette phrase qu'elle dit à l'instant, un vide s'est formé autour de nous, je trouve que ça illustre bien concrètement ce que ça veut dire d'être paria. C'est que tout d'un coup, un vide est autour de nous. Et ce qu'elle appelle être le véritable choc, c'est la trahison par les amis. Donc là, elle parle de 1933, donc on sait que c'est notamment le ralliement d'Heidegger et d'autres personnes qu'elle aimait au nazisme, notamment Benno von Wiese ou d'autres, hein, c'est très concret, on sait très bien de... Particulièrement dans ce milieu d'intellectuel. Donc, ça va expliquer aussi que, arrivée en France, elle dit un petit peu plus loin dans l'interview, je ne voulais plus avoir rien à voir avec ce milieu. Donc, elle va se consacrer au travail social. Mais la tragédie, c'est que, ils vont être à nouveau trahis par leurs amis. En France, et notamment par la France elle-même, patrie de l'humanisme, au moment où ils sont mis en camp. Et ça, c'est très...
Et elle va y être, il faut juste préciser, le camp de Gursk.
Exactement.
Qui devait accueillir ceux qu'on a appelés les indésirables, hein, ou liés aux forces ennemies, dès la République. Le 12 novembre 1939, pardon, le 12 novembre 1939 est passé un décret, c'est pas encore Vichy, où des camps ont été ouverts, alors on les traitait pas comme dans des camps de concentration terribles, mais enfin, par exemple, le camp de Gurs a été ouvert à ce moment-là pour les Allemands, pour les Espagnols, pour tout ce, et d'ailleurs, les Espagnols, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient dans des camps de réfugiés. La République, la notion de camp, comme l'a montré Denis Péchanski, a été très importante. Et puis Vichy, là-dessus.
Oui, alors, le terme d'indésirable est utilisé dès 1934. Mm-hmm. Donc, ça a beaucoup à voir avec la crise économique. C'est-à-dire, c'est toute personne. Il faut voir que les réfugiés sont mal vus. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la propagande anti-Boche de la Première Guerre mondiale qui fait qu'ils sont mal vus. C'est toujours prégnant dans la société. Et il y a simplement le fait de peser sur l'économie française qui en font d'éventuels concurrents et d'éventuelles personnes qui vont peser et faire s'effondrer la société française. Et ça, on retrouve finalement dans les directives du gouvernement. Alors, il va y avoir une petite accalmie avec le Front populaire, mais sinon, dès 34-35, oui, on a des lois très dures envers les réfugiés. Et ensuite, ça reprend en 38 avec Daladier. Et là, on voit bien que l'indésirable, finalement, c'est le chômeur. En réalité, c'est toute personne qui met en danger la société. Mmh. Alors, ils sont mis en camp dès septembre, dès la déclaration de guerre. Mmh. C'est une urgence de les mettre en camp. Cette fois-ci, c'est pour ça qu'il y a ils sont parias à mille titres. C'est-à-dire que là, c'est en tant que ressortissant.
Donc, elle a été à Gurs, à Rennes.
Et elle est internée. Alors, elle, à la deuxième vague d'internement, en mai 1940. Et ce qui est très fort, c'est que elle dira clairement que ce qui a été particulièrement cruel, c'est d'être internée par les amis. Le problème, il est personnel. Les nazis étaient ce qu'ils étaient. La société française qui a toujours et allemande qui sont restées finalement antisémites, on le sait, elle le sait, puisque c'est son évolution intellectuelle, mais que les amis se rallient et que la France les met en camp, et elle dira dans Nous autres réfugiés, dont vous avez passé un extrait, manifestement personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'être humain, ceux qui ont été envoyés dans les camps de concentration par leurs ennemis et dans les camps d'internement par leurs amis. L'humiliation, l'infamie, c'est en plus d'être mis en camp avec des nazis. Et alors ça, c'est très fort, et c'est ce qui va rassembler Hannah Arendt des autres parias qui vont former sa tribu, c'est que ils sont trahis par tous, et même on leur vole leurs moyens de combat contre Hitler. Il faut lire aussi la Terre de Kessler, lui-même, au moment où il tente de suicider quelques semaines plus tard, parce que tout ça, ça va provoquer une vague de suicide. C'est ça qui va les conduire, cette trahison par les amis, qui va les conduire au désespoir, plus que les geôles franquistes qu'ils ont connus, plus que les prisons hitlériennes qu'ils ont connues. C'est cette trahison-là qui va les amener au désespoir. Et que Schler lui-même, quand il va tenter de se suicider, il disait « L'important est de savoir pourquoi et comment un homme meurt, s'il est tué par son ennemi ou s'il est amené par ses amis à se tuer lui-même. » Et la grande trahison, la grande souffrance de ces aînés-là, où ils sont mis en camp pour des prétextes, en réalité, c'est plus parce que on les soupçonne d'être rouges ou ils sont indésirables depuis déjà quelque temps dans la société française, ça va être la grande souffrance et la grande tragédie. Et c'est ce qui conduira aussi, même si on en parle très peu, ces chroniques d'une mort annoncée de Walter Benjamin. Et juste, si je peux terminer, ça va être parachevé ensuite par la clause 19 de l'armistice, c'est-à-dire que quand Pétain signe l'armistice, il déclare, en piétinant le droit d'asile, qu'il va remettre tous les réfugiés que demandera Hitler, tous les opposants nazis. Or, ils savent très bien qu'ils vont être traqués parce qu'ils ont perdu leur nationalité. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de l'apatridie. Et à ce moment-là, Arendt et Benji se sont retrouvés à Lourdes. Elle a pu partir du camp
Benji.
De... Et pardon, Benji, c'est le surnom, qu'elle donne à Walter Benjamin.
Oui, oui, vous en parlez comme d'un copain.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est son copain, elle. C'était pas le mien, pardon.
Walter Benjamin. Exactement. Arendt a été très proche de lui. À Paris, il a eu du mal à quitter la France et lui aussi va se suicider
et
en 40.
Et en entendant parler de la clause 19, c'est quand ils apprennent la clause 19 de l'armistice, si vous voulez, ça parachève ce lâchage par le pays des droits de l'homme. Si vous voulez, c'est le triomphe de la barbarie, et c'est ça qui va être le plus dur, c'est de voir l'humanisme vaincu et de voir les amis, les humanistes, les intellectuels, et puis aussi l'URSS, les communistes, avec le pacte germano-soviétique, qui les lâche. Mmh. Et ces gens vont se retrouver parce qu'ils sont orphelins et que les amis les ont trahis.
Il faut préciser qu'Hannah Arendt a pu s'enfuir de Gurs, puis qu'elle partira aux États-Unis en 1941, c'est ça ?
C'est ça.
Est-ce que je pourrais ajouter quelque
chose ? Mais bien sûr, j'allais vous demander de le faire.
Non, mais parce que Je crois que le livre de Marina a beaucoup, beaucoup de qualité, mais par rapport à ce qu'on sait, à la biographie d'Elisabeth, enfin, comment il y a une grande biographie d'Arène, c'est celle d'Elisabeth Young-Brühl, où, effectivement, qui est extrêmement intéressante, mais Elisabeth Young-Brühl, elle n'a pas pu parler de tout. Et je trouve que l'un des moments extrêmement nouveaux par rapport à ce qu'on sait de l'itinéraire d'Arendt, c'est ce que Marina reconstitue concernant avec qui elle est arrivée à Gurs, comment elle a été arrêtée à Paris, et parce qu'on dit voilà, on lit dans une biographie, alors bon, elle a été internée à Gurs, mais on se demande jamais ce que ça veut dire concrètement, oui, d'être internée, c'est-à-dire le train qu'il a fallu prendre, bondé en pleine chaleur, enfin tout ce que Marina décrit, et aussi avec elle a retrouvé un journal de Lisa Fitko aussi, qui était une
un membre de la tribu d'Arendt.
Non, c'est pas Lisa Fitko, c'est l'autre, c'est
Laura Kruger,
c'est Lotte Klenbord, la femme de elle a retrouvé un journal, donc elle a reconstitué vraiment des itinéraires et ce que c'était que Gurs, parce que c'était quand même terrible, en France, quoi. Et ça, je voudrais vraiment rendre hommage à son livre sur ce point.
Alors, vous évoquiez la tribu d'Arène, comme elle disait autour d'elle, rue Dombasle, dans le 15e. C'est là qu'elle a été arrêtée.
Elle vit juste à côté. Ils ont déménagé avec Heinrich Blücher pour se rapprocher du dit rue Dombasle, mais en réalité, Heinrich Blücher et Hannah Arendt, ils vivent au 68 rue Brancion.
Pas très loin.
Tout à côté.
Et donc, il y a des gens qu'on doit citer quand même. Elle a été extraordinairement proche de tous ces personnages. Elle s'est inquiétée énormément de ceux qui n'ont pas pu partir aux États-Unis en même temps qu'elle. Il y a Blücher, bien sûr, celui qui deviendra son époux. Il y a Dora Benjamin, la sœur de Walter Benjamin. Il y a Erich et Hertha Cohn-Bendit, les parents de Danny Cohn-Bendit. Et puis, il y a Arthur Koestler, que vous évoquez, Klenbord et Fitko, qui sont des femmes. Pouvez-vous nous en dire un mot? Elle avait des échanges aussi sur son travail avec ces femmes, ou bien que faisait-elle? Il y avait des médecins aussi qui soignaient la tribu.
Oui, le personnage qui arrive le premier, d'ailleurs, au dit rue Dombasle, c'est Fritz Frenkel. C'est un personnage magnifique qui a été parfaitement oublié, alors que c'était un psychanalyste de génie à Berlin, spécialiste de la dictologie et proche des Spartakistes, qui avait fondé le Parti communiste allemand avec Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. C'est lui qui arrive en premier au 10 rue Dombasle en 1934, parce qu'il y avait une concierge, Geneviève Fontaine, qui était assez anticonformiste elle-même et qui fermait les yeux sur l'illégalité de certains de ses locataires. Et lui était proche à la fois d'Heinrich Blücher et de Walter Benjamin en Allemagne. Tout ce petit monde va se reformer dans cet immeuble où les logements n'étaient pas très chers et où surtout il y avait finalement la bienveillance qui faisait beaucoup de la concierge, puisque le concierge à l'époque travaillait avec la police. Et il va y avoir toute une société comme ça, de gens qui vont surtout recréer une famille, un clan, une tribu, selon ses termes à elle, qui va leur permettre de tenir, mais même de continuer à travailler. Donc Raël Varnagen, sa biographie à Hannah Arendt n'est pas finie, et c'est elle se plaint qu'Heinrich Blücher et Walter Benjamin la harcèlent pour finir Raël Varnagen. Par ailleurs, il y a Arthur Koestler aussi. Ouais. Donc, lui, Benjamin, il arrive en 1938 au 10 rue Dombasle. Il y a Koestler qui revient d'Espagne, qui est complètement traumatisé parce qu'il a vécu, il a été condamné à mort. Et ils vont, comme ça, non seulement se soutenir, créer quelque chose d'extrêmement fort, qu'elle appellera la chaleur des peuples parias, une fraternité exceptionnelle, qui vient du fait qu'ils sont tous orphelins, à mille titres, comme on le disait tout à l'heure. Et en même temps, ça va être une sorte de laboratoire, parfois tout à fait hors de la légalité, c'est-à-dire que Walter Benjamin et Fritz Frenkel reprennent leurs expériences sous hashish ou sous morphine qu'ils faisaient déjà à Berlin pour leurs travaux. Alors, je crois que ça dépasse parfois le cadre complètement studieux de leur boulot. En plus, Walter Benjamin a une petite terrasse sur les toits, donc c'est propice. Et puis, ils écrivent, ils travaillent beaucoup. Arthur Koestler écrit Le Zéro et l'Infini. En pleine semaine de menaces et d'effondrement, Benjamin écrit énormément aussi.
C'est extraordinaire,
aussi.
Hein, cette situation.
Oui, c'est viscéral.
Merci d'avoir écrit tout cela, d'incarner les philosophes, de dire qu'ils fumaient du haschich, tout en réfléchissant à l'israélite français qui les prenait de haut. Je veux dire... Tout ça est extrêmement important, me semble-t-il, pour comprendre les conditions dans lesquelles les gens pensent. Mm. Et la philosophie, avec philosophie, c'est
oui,
aussi, je le dis humblement, mais nous essayons de faire comprendre cela.
Oui, je crois que c'est important, c'est pas du tout un sacralisé. Alors quand même, Benjamin se plaint du bruit de l'ascenseur et il va aller régulièrement voir Brecht au Danemark pour avoir un peu plus de silence. Bon, il faut dire qu'il a les nerfs quand même, il est éprouvé, lui, parce qu'il a très peu de réception dans la société française à ses travaux, donc il est dépendant à Adorno et Horkheimer, l'école de Francfort. Mais oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en plein effondrement, il ressent plutôt l'urgence d'écrire, plutôt cette urgence et plutôt ce besoin.
Ah, ça tombe bien parce qu'on va parler pour la fin, mais bien sûr, vous ajouterez tout ce que vous voulez, Martine et vous aussi. On va parler un peu de la figure littéraire du paria, qui la travaille à Arendt aussi dans ces années-là. Mais je vous en prie, réagissez à ce beau moment que nous a offert Marina Touyès.
La question des conditions de travail des intellectuels. Moi, ce qui m'a toujours bouleversée quand j'entends parler de ces gens... réfugiés, on peut imaginer qu'il y en a d'autres de nos jours qui sont aussi dans cette situation. C'est la passion qu'ils conservent pour la pensée, quand même, dans des circonstances où tout est fait pour les empêcher de penser. Et quand je pense au confort qui est le nôtre,
oui.
Hein, on est chez soi avec nos bibliothèques, nos ordinateurs, etc. On a tout sous la main. Et que eux, ils sont partis, je crois que Arendt, elle est partie avec son manuscrit de Rachel Varnhagen, je crois. Et je sais pas si elle a pu emporter autre chose. Alors je sais qu'après, ils ont pu, justement, d'après le livre, une fois, ils se sont quand même installés dans un appartement. Parce qu'à un moment du livre, tu dis qu'elle et Heinrich Blücher, ils avaient quand même à un moment retrouvé un certain espace confortable.
Très brièvement,
ils avaient même pu faire venir leurs bouquins, des meubles aussi, il me semble.
Ça, c'était pareil, c'était prioritaire, la bibliothèque.
La bibliothèque, voilà.
Quand Benjamin, réfugié à Lourdes, va apprendre que les nazis sont entrés au 10 rue Dombal et qu'il va avoir peur d'avoir perdu ses travaux et sa bibliothèque, c'est aussi une des choses qui va le plonger dans le découragement et le désespoir.
Voilà.
Leur bibliothèque, c'était pas un luxe.
Voilà.
C'était...
Alors, il y avait la bibliothèque, ils allaient à la Bibliothèque nationale.
Oui.
Et à Arendt, je crois qu'il y a quelque part une photo, je ne sais plus dans quel bouquin, qui montre sa carte de la Bibliothèque nationale. Parce que pendant ce temps-là, elle travaillait sur Rachel Varnhagen, mais elle travaillait aussi sur l'antisémitisme.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle a fait des conférences à une certaine époque. Dans des associations juives, je crois que c'est le Bnei Brit parce qu'elle part aussi d'Allemagne en voulant comprendre qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, et elle a donc elle a continué à travailler historiquement, philosophiquement sur cette question, et il y a plus d'une 150 pages de manuscrits qui ont été conservés à la Bibliothèque du Congrès à Washington et qui ont été traduites pour la première fois, intégrées dans les écrits juifs qui ont été d'abord publiés par Jérôme Cohn aux États-Unis. Mais elle a continué effectivement sur la question de l'antisémitisme, et voilà.
Oui. D'ailleurs, ils sont abonnés au journal de l'Action française, Walter Benjamin et elle. Donc, ils sont vraiment... on voit dans ses lettres qu'elle a une analyse, une acuité sur ce qui est en train de se passer en France. Et elle décrira très bien, quand elle est en transit à Lisbonne avant d'aller aux États-Unis, que les premières mesures anti-juives émanent de l'antisémitisme français. Donc, mais ce qui est très impressionnant, c'est que par ailleurs, elle est dans une précarité qu'on peut restituer, parce qu'elle en a très peu parlé ensuite, mais entre 36 et 38, elle n'a plus de travail. Donc on sait, elle écrit une lettre à sa mère où elle décrit qu'elle a dû taper de l'argent, elle l'écrit en argot, à une amie de sa mère. Donc elle a donné quelques leçons en allemand, mais enfin, ils ont très très peu. Et je trouve que aussi un des symptômes de l'énorme précarité à tous les niveaux dans lesquels ils étaient, c'est le fait qu'elle ait dû avorter. Le fait qu'il n'ait pas...
Arendt
Oui. Il y a eu plusieurs... Il y a beaucoup de réfugiés...
Tu ne le mentionnes pas
si,
explicitement dans ton livre.
Si, je le dis, mais je m'y appesantis pas parce que on le sait, parce qu'au moment où Lotte Klenbord, son amie, décide de se faire avorter pour la seconde fois, elle dit, c'est comme ça qu'on peut le savoir. Elle dit, Anna Arendt m'a aidée. Il semble qu'elle ait connu la même expérience. Donc Lotte Klenbord le dit dans son tapuscrit qui n'a pas été édité. Oui. Et puis Heinrich Blücher, après la guerre, en 46, il écrit à sa mère et lui explique qu'ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants dans ces temps-là. Ah oui. C'est juste pour dire ce que ça veut dire, paria, parce qu'elle-même, encore une fois, la souffrance qu'elle a vécue en France a été reléguée parce qu'elle a appris sur l'extermination des Juifs d'Europe. Mais concrètement, pour elle, comme beaucoup de femmes de réfugiés, ça a été le choix de ne pas avoir d'enfants.
Quel est donc dans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne. Que l'on traîne, que l'on traîne sur des cailloux. C'est le grand lustre-cru qui passe, c'est le grand lustre-cru qui mangera tous les petits corps qui ne dorment guère, tous les petits corps qui ne dorment pas. Grand bruit qui vient jusqu'ici, on dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette dedans un puits. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est le grand lustre cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas.
Le grand lustre-cru. C'est une chanson de Kurt Weill qu'on entend dans la pièce de théâtre Marie Galante de Jacques Deval, Le grand lustre-cru qui mange les enfants. De quoi est-ce donc la métaphore ? Kurt Weill est à Paris, lui aussi réfugié en 1934. Il y est exilé, mais pas très bien accueilli non plus, comme les autres. Et en 1935, il partira aux États-Unis. Marina Touillet, je suis très touchée, comme beaucoup de gens, par votre livre. Merci. Sur Arendt à Paris, livre qu'on peut lire aux éditions de l'Échappée, qui a un succès extraordinaire, parce que précisément vous dites comment Arendt, mais aussi Benjamin et tant d'autres ont vécu et ont pensé pendant ces années si difficiles. C'est une recherche admirable. Martine Ebovici, sur le paria, vous avez beaucoup publié, mais pas seulement sur le paria, vous êtes une spécialiste d'Arendt. Tout ce que vous avez publié en lien avec cette émission est précisé sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine s'intéresse au fait de prendre soin de nous. C'est le pourquoi du comment.
Comment prendre soin de soi ? Il est frappant qu'au milieu des années 70, dans une période qui est traversée, elle aussi, comme la nôtre, il y a à peu près 50 ans, un peu plus de 50 ans, par de graves désordres mondiaux, par la guerre froide, par la violence politique, par des inquiétudes aussi sur la consommation, sur l'économie, sur la crise mondiale qui commence à prendre forme et qui se développe aujourd'hui d'une manière plus grave encore qu'anticipée alors. Il est frappant qu'au milieu des années 70, deux philosophes font un pas de côté pour nous dire que pour répondre aux dangers du monde, il faut d'abord prendre soin de nous-mêmes, prendre soin d'une partie de nous-mêmes dont la philosophie antique nous a montré qu'elle est la condition du prendre soin aussi objectif du monde, qu'il faut prendre soin de cette partie de nous-mêmes qui est capable de vérité, d'universel, de résistance à la peur, au doute et à l'angoisse, pour prendre soin de ce qui justement nous fait douter et nous angoisse. Ces deux philosophes, ce sont le philosophe tchèque Jan Patočka, dans sa première leçon notamment du cours clandestin de 1973, qui sera finalement appelé Platon et l'Europe, et l'autre c'est Pierre Hadot, en France, bientôt connu pour son interprétation de la philosophie comme manière de vivre, et qui en 1973 prononce un de ses plus grands textes, désormais intitulé « Éloge » de Socrate. Face au désordre du monde, il faut prendre soin d'abord de cette partie de nous-mêmes qui est capable de s'inquiéter objectivement des désordres du monde. C'est le rôle de la philosophie, écarter les passions qui non seulement nous font peur, mais nous angoissent et nous amènent à des actes parfois délirants ou criminels. Mais prendre soin des passions, c'est aussi éveiller en nous cette part d'universel, cette rationalité qui, selon les stoïciens, selon les épicuriens, est ce royaume intérieur, cette partie intérieure de nous-mêmes qui résiste à toutes les souffrances extérieures. Il y a pourtant aussi dans ce prendre soin de soi une autre vérité qui nous alerte sur les dangers objectifs du monde contemporain, c'est que les passions humaines aggravent les dangers du monde. Il y a dans cette philosophie intérieure, dans ces exercices spirituels, dans cette philosophie comme manière de vivre, la ressource peut être fragilisée aujourd'hui d'une capacité en nous à réatteindre une partie de l'universel qui se révèle aussi bien dans les mathématiques que dans les principes de la morale. Mais il y a aussi le diagnostic peut-être plus grave encore que la plupart des êtres humains sont soumis à des passions qui aggravent les dangers du monde. Parallèlement à ces figures de Socrate, de Platon, d'Épicure, de Sénèque, des stoïciens, il y a les figures des empereurs romains soumis à des passions délirantes qui mettent le feu à l'univers tout entier. Il y a Néron qui jouit de détruire Rome. Il y a Caligula que Camus décrivait avant même Patočka et Pierre Hadot. Caligula que nous retrouvons aujourd'hui devant des dictateurs dont le narcissisme est au fond le moteur premier, peut-être plus même que le désir de pouvoir ou une passion, une idéologie politique qui vise à dominer le monde comme c'était encore le cas dans les années 70. Oui, prendre soin de nous. Pourquoi faut-il prendre soin de notre psychologie, de notre subjectivité ? C'est à la fois pour résister intérieurement, mais aussi pour comprendre comment les pathologies de l'âme, la psychopathologie des êtres humains aggravent les dangers du monde. Prendre soin de nous, ce n'est donc pas une activité dérisoire, psychologique, superficielle, mais une responsabilité de tout le monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Felpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.